Si on imagine un instant la scène, quelqu'un gagne à la loterie, tient cet énorme chèque en carton dans ses mains, devant les caméras. Et là, au lieu de célébrer, cette personne sort un briquet et met le feu au chèque.
Ah oui, le suicide financier total, quoi.
C'est ça. Tout simplement parce qu'elle fait pas confiance à l'institution qui lui remet cet argent. Et ce genre de refus radical, c'est exactement la dynamique par laquelle s'ouvre notre matériel source aujourd'hui.
Absolument.
Bon, décortiquons tout ça. Bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur où on va plonger dans les notes du cours du docteur Kenneth Matthews, spécifiquement sur les chapitres 14 et 15 du livre de la Genèse.
Ouais, et je suis ravie d'être là pour en parler parce que c'est vraiment fascinant. Le contexte du Proche-Orient antique, ça nous offre une grille de lecture qui est juste indispensable ici.
Totalement. L'objectif aujourd'hui, la mission de notre analyse, c'est de comprendre comment l'apparition fulgurante d'un roi sans passé, couplée à un rituel de découpage d'animaux vraiment macabre,
Très macabre, ouais.
voilà comment tout ça a posé les fondations intellectuelles de concepts comme la foi et la promesse.
Et comment ça déconstruit totalement notre idée du mérite.
C'est pas juste une chronique historique de berger nomade, en fait. C'est la clé de voûte de la pensée chrétienne sur la grâce.
Alors le décor est planté juste après une grosse crise géopolitique. Abraham vient de remporter une victoire militaire complètement inespérée contre une coalition de rois venus de l'Est.
Des rois qui avaient ravagé la région, c'est ça, hein?
Exactement, ils avaient kidnappé Lot, le neveu d'Abraham, et contre toute attente, Abraham monte une expédition, gagne, et récupère les otages et un butin colossal. Et c'est sur le chemin du retour que ça devient intéressant.
Ouais, sa caravane croise deux rois très différents. D'un côté, on a le roi de Sodome. Il propose un marché classique de l'époque. Il dit en gros, rends-moi les personnes et garde le butin.
Ce qui, selon les codes de l'époque, est hyper généreux. Dans l'Antiquité, le vainqueur d'une bataille avait légalement droit à tout, les humains, le matériel, tout.
Donc le roi de Sodome tente une négociation pragmatique pour récupérer sa main-d'œuvre, en fait.
C'est ça. Sauf que la réponse d'Abraham, elle défie toute logique économique. Il jure de rien prendre, même pas un fil ou un lacet de sandales, dit le texte.
C'est là que ma comparaison avec la loterie prend tout son sens. Accepter cet argent, c'était accepter d'être redevable à un roi corrompu.
Ouais, Abraham refuse pour que le roi de Sodome puisse jamais dire c'est moi qui ai enrichi Abraham. Il comprend très bien les dynamiques de pouvoir.
Et il préfère tout miser sur sa propre intégrité et sur une promesse divine qui est encore totalement invisible.
Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment ce refus prépare le terrain pour la seconde rencontre, celle avec Melchizedek.
Le roi de Salem, c'est ça.
Exactement. Salem, que les historiens identifient souvent comme l'ancien nom de Jérusalem. Et l'approche de ce roi-là, elle est diamétralement opposée.
Il vient sans rien demander.
Rien du tout. Il n'exige rien, il apporte du pain et du vin, et il prononce une bénédiction au nom du Dieu Très-Haut qui se dit El Elyon en hébreu.
Mais attends, le terme El Elyon, ça m'interpelle. C'était pas une façon assez générique de désigner le Dieu suprême chez les Cananéens? Comment Abraham sait qu'il parle du même Dieu?
Ah, c'est une super question. En fait, le texte montre qu'Abraham opère une sorte de fusion théologique immédiate.
Comment ça?
Au verset 22, il reprend l'expression El Elyon, mais il y accole le nom personnel de son propre Dieu, Yahvé. Il valide la foi de Melchisédek.
C'est une vraie reconnaissance mutuelle, du coup.
Totalement. Et la preuve physique de ça, c'est qu'Abraham lui donne un dixième de son butin. Payer une dîme à l'époque, c'est reconnaître une autorité spirituelle supérieure.
L'ironie est quand même folle. Il refuse des millions du roi de Sodome pour pas se soumettre, mais il lâche 10% de sa fortune à un inconnu.
Un inconnu sorti de nulle part, ouais. C'est un choix de soumission hyper calculé. Que plus tard, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va en faire une figure centrale.
En utilisant ce fameux concept de type et antitype, c'est ça?
C'est ça. Le type, c'est l'ombre ou le modèle dans le passé. L'antitype, c'est la réalité finale. Ici, Melchizedek est le type et Jésus est l'antitype.
Mais pourquoi ce roi-là spécifiquement?
Parce qu'il combine deux rôles qui étaient normalement interdits d'être mélangés. Il est roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut.
Mais attends, ça devait poser un énorme problème de légitimité pour les premiers lecteurs chrétiens, non? Pourquoi chercher un modèle chez un roi cananien plutôt que chez le grand prêtre juif légitime, Aaron?
Mosaïque, tu pouvais pas être roi et prêtre en même temps. La royauté, c'était la tribu de Juda, la prêtrise, la tribu de Lévi.
Chacun son couloir, en gros.
Exactement. Un roi n'avait rien à faire dans le temple pour sacrifier. Or, Melchizedek cumule les deux, bien avant que cette loi n'existe.
Et son nom veut dire « roi de justice », je crois.
Oui, Melchizedek. Et roi de Salem, donc proche du mot « shalom », roi de paix. Justice et paix réunis.
Un argument rhétorique parfait pour annoncer un messie.
Et il y a un second problème avec l'ordre d'Aaron. Les prêtres lévitiques, bah, ils mouraient. Ils devaient sans cesse répéter les sacrifices, comme au Yom Kippour.
C'était jamais définitif.
Voilà. Alors que l'auteur biblique joue avec le fait que Melchizedek n'a pas de généalogie enregistrée. Pas de début, pas de fin. Ça symbolise un sacerdoce éternel.
Donc, si Abraham, le père de la nation, paie la dîme à Melchizedek...
Ça prouve que l'ordre de ce prêtre mystérieux est supérieur à celui d'Aaron, qui était encore métaphoriquement dans les reins d'Abraham à ce moment-là.
C'est implacable. On renverse tout l'ordre établi. Et ce changement des règles du jeu nous amène directement à la suite du récit.
Le fameux chapitre 15.
Ouais, donc Abraham est dans sa tente. Il a refusé l'argent, il a donné sa dîme, il se retrouve un peu sans rien, et surtout, il a peur que les rois vaincus reviennent se venger.
C'est un moment de grande vulnérabilité. Et c'est là que Dieu apparaît et lui dit « Je suis ton bouclier ».
Ce qui fait écho à la bénédiction de Melchizedek, non ? Dieu qui avait livré ses ennemis.
Exactement. Dieu valide son refus des richesses de Sodome en disant « Ta récompense sera très grande ».
Sauf qu'Abraham ramène ça sur un terrain ultra pragmatique. Il dit en gros « Super la récompense, mais j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'héritier ».
C'est un vrai problème à l'époque.
Du coup, il propose d'adopter son serviteur, Éliézer de Damas. C'est quoi cette histoire d'adoption d'un serviteur ?
En fait, les tablettes archéologiques des Ourites trouvées à Nuzi nous expliquent tout ça. C'était très courant, c'était une sorte d'assurance vieillesse.
Ah, c'était légal ?
Oui, un contrat très strict. Le serviteur s'engageait à s'occuper des vieux jours du couple, à faire leurs funérailles, et en échange, il héritait de tout.
Très rationnel, mais Dieu refuse.
Ouais, il dit non. L'héritier sera de ton propre sang, et ta descendance sera comme les étoiles.
Et c'est là qu'arrive Genèse 15, verset 6, la phrase qui change tout. Abraham crut à l'Éternel, qu'il le lui compta comme justice.
Le grand tournant.
Mais attends, c'est tout, gueula. Il suffit de croire. Si on prend un peu de recul... C'est presque choquant.
Comment ça ?
Mais c'est comme si on donnait un diplôme prestigieux à un étudiant qui n'a jamais passé l'examen, juste parce qu'il a une confiance aveugle dans le professeur. C'est pas un peu trop facile ?
Si on relie ça à l'ensemble du Nouveau Testament, on comprend l'enjeu. L'apôtre Paul utilise ce moment précis dans sa lettre aux Romains pour prouver son point.
Son point sur la loi, c'est ça ?
Oui. À l'époque, le débat, c'était de savoir s'il fallait respecter toutes les règles de Moïse et la circoncision pour être sauvé. Et Paul regarde le calendrier de la vie d'Abraham.
Un problème de chronologie, donc.
Totalement. Abraham est déclaré juste au chapitre 15, mais la circoncision n'arrive qu'au chapitre 17, et les 10 commandements arrivent 400 ans plus tard.
Ah oui, donc il est déclaré juste avant même que les règles existent ?
C'est ça. Le salut n'a jamais dépendu de la performance. C'est une justice qui est créditée sur un compte. C'est un terme comptable. L'imputation.
Crédité. Donc pas gagné par ses actes, puisqu'on sait qu'Abraham va faire plein d'erreurs par la suite.
Exactement. Il va douter, il va mentir. Mais la justice lui est créditée parce qu'il fait confiance au garant de la promesse.
Mais ça soulève un paradoxe de fou. Si ce crédit est basé sur le sacrifice ultime de Jésus, comment ça marche dans le temps alors ? Jésus n'arrive que des millénaires plus tard ?
Comment on crédite un paiement qui n'est pas encore fait, en somme ?
Voilà.
Les notes du docteur Matthews mentionnent Apocalypse 13:8. Ce texte décrit Jésus comme l'agneau immolé dès la création du monde.
Dès la création du monde ?
Oui, en théologie, ça signifie que Dieu opère hors du temps. Ce sacrifice est une réalité éternelle, actée avant même le début de l'histoire humaine.
Donc Abraham est justifié rétroactivement par un événement futur qui, pour Dieu, est déjà une réalité. C'est profond.
Et la méthode a toujours été la même, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. La confiance.
Bon, la confiance est là. Mais dans le Proche-Orient antique, une belle promesse, ça suffit pas. Il faut un contrat. Et on arrive à la section 4, le rituel sanglant.
L'alliance. Et là, l'ambiance devient très sombre.
Ouais. Dieu demande à Abraham de prendre une génisse, une chèvre, un bélier, et de les couper en deux. Sérieusement, pourquoi on découpe des animaux pour signer un papier à l'époque ?
Jérémie 34 nous éclaire là-dessus. Dans les traités antiques, les deux personnes qui faisaient alliance devaient marcher entre les moitiés des animaux morts.
Un couloir de sang, en fait.
C'est ça. C'était une auto-malédiction. En marchant, ils disaient symboliquement que je finisse comme ces bêtes si je brise ce contrat.
Un contrat sous peine de mort.
Bah ouais.
Dans un sommeil profond.
Le mot hébreu, c'est targhéma. Le même sommeil surnaturel qui a frappé Adam à la création d'Ève. Abraham est littéralement paralysé, hors d'état de signer.
Alors qu'est-ce que ça signifie ?
Si l'humain ne signe pas...
Seul le Seigneur, représenté par un fur fumant et des flammes,
passe entre les morceaux. Abraham ne bouge pas.
Dieu traverse tout seul.
Voilà, c'est une alliance unilatérale. Dieu prend sur lui seul la responsabilité et la malédiction en cas d'échec de l'une ou l'autre partie.
Attends, donc Dieu dit « Si tu échoues, Abraham, c'est moi qui paierai le prix ». Exactement, cela garantit le résultat. Peu importe les futurs échecs spirituels d'Abraham, Abraham est le pur bénéficiaire d'une promesse inconditionnelle.
C'est une destruction complète du concept donnant-donnant.
Cela soulève une question importante, tu sais. Dans notre monde moderne, on est complètement obsédé par la méritocratie.
Ah bah oui, on doit tout mériter. Le travail, le statut.
Voir la partie la plus forte, absorber 100% du risque, c'est juste révolutionnaire. Ça casse notre besoin de devoir prouver notre valeur en permanence.
C'est une sacrée conclusion pour notre exploration du jour. On est passé d'un refus de richesse compromise à l'apparition d'un roi prêtre éternel.
Et on a terminé sur un contrat de sang signé pendant que le principal intéressé dormait à point fermé.
La vraie leçon ici, d'après nos sources, c'est que la foi repose sur la confiance en un garant et pas sur une performance sans faille.
Et heureusement pour Abraham, vu la suite de son histoire.
C'est clair. Et ça nous amène à une dernière réflexion, un truc à méditer. On vit dans une époque de burn-out, d'anxiété, où on court sans cesse pour mériter notre place.
Toujours devoir prouver qu'on a le niveau, ouais.
Mais si le contrat le plus important de l'histoire ancienne a été validé, alors que l'être humain était littéralement inconscient et incapable d'agir...
Hors course, quoi.
Voilà. Quelle part de notre besoin frénétique de tout contrôler aujourd'hui n'est en fait au fond qu'une tentative épuisante de signer un contrat qui a déjà été validé à notre place. Sur ce, on vous laisse y réfléchir.